Alors, ce qui me fait marcher dans la vie, c'est difficile à dire, à vrai dire. Je pense à mon travail en particulier, mes étudiants, mon engagement professionnel, ma famille. Enfin, c'est des choses assez banales finalement. Peut-être le goût aussi de voyager, de venir à Nantes, de visiter la ville. Voilà, des choses assez ordinaires. Puis je pense, bon, il y a aussi là derrière une forme, je pense, d'engagement un peu général, politique, voilà, qui détermine finalement moi, ma façon d'être avec les gens, dans le monde, quoi. Voilà ce que je peux vous répondre, mais c'est une question presque philosophique. Hein, donc commencer par là, c'est un peu difficile. Je pensais que vous alliez me demander mes coordonnées, ce que je faisais. Et finalement, non, vous commencez directement par l'essentiel. Donc un peu une question piège.
Bonjour Corinne Grenouillet, maître de conférences en littérature du XXe siècle à l'Université de Strasbourg, auteur d'Usine en texte, écriture au travail paru aux éditions Classique Garnier, est intervenu dans le cadre des rencontres-débats de l'UMA Café de Nantes. Nous l'accompagnons dans la rue.
Je viens de Villers-le-Lac, j'habite à la frontière suisse, dans le Doubs. Ce qui m'a déterminé à faire des études, je pense que c'est presque un cheminement naturel. Je n'étais pas forcément programmée pour faire des études aussi longues, mais je pense qu'on a toujours, mes frères et moi, été encouragés par mes parents dans nos choix de vie et d'études. Et bon, je suis allée à la faculté à Besançon, l'université de Besançon, et puis il s'est trouvé que j'ai eu la chance de rencontrer mon futur directeur de thèse, qui avait à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui un contrat doctoral disponible, que j'ai pu en bénéficier. Et c'est comme ça que je me suis trouvée finalement dans l'enseignement supérieur. J'ai presque envie de dire par hasard. Bon, certes, j'avais envie de faire de la recherche, mais je n'avais pas forcément... un plan de carrière établi depuis le début, comme certaines personnes qui étaient mieux renseignées que moi sur les possibilités, sur le fonctionnement de l'université française. Donc voilà, je me suis retrouvée maître de conférence, dont je saute quelques étapes hein, parce que c'est un peu pénible, maître de conférence à l'université de Strasbourg, déjà à l'IUFM à l'époque en 97, et puis maintenant à l'université de Strasbourg en littérature française depuis 2000. Voilà pour mon statut, donc je suis une universitaire.
Le choix de votre filière ?
Je crois qu'en fait, c'était un choix... presque naturel pour beaucoup de filles. Les filles faisaient soit des études de lettres ou des études de psychologie. Moi, je pense que fondamentalement, j'aurais dû faire autre chose, à savoir des études de sociologie et d'histoire. J'ai fait un peu de sociologie. J'ai passé aussi un doc de sociologie, comme on disait à l'époque. Mais en fait, il y avait une sorte d'orientation un peu par défaut des filles vers ces voies-là. Et donc, ça, je pense que c'est un peu pour ça que je me suis retrouvée en lettres. Donc, je suis presque en train de vous dire que je ne suis pas une véritable littéraire. Si, au fil des années, je suis quand même devenue une littéraire. J'ai passé l'agrégation de lettres, j'ai une thèse en littérature. Mon habilitation à diriger les recherches a été faite en 9e section, c'est-à-dire la section de littérature française. Donc oui, je suis une littéraire en même temps, mais je pense que j'aurais pu faire tout autre chose. Et mon travail sur Usine en texte montre en fait cet intérêt pour ce qui n'est pas la littérature. Et j'ai une conception de la littérature un peu particulière. Moi, la littérature m'intéresse dans la mesure où elle parle du monde. Une littérature qui ne parlerait que d'elle. Alors si j'apprécie la beauté pure, la poésie pure, je peux l'apprécier aussi. Mais ce n'est pas ce que je recherche moi en fait dans l'écriture, des romans en particulier ou la littérature en général. Et je pense que cet intérêt un peu général pour des textes qui parlent du monde, qui m'a amené finalement vers ces textes qui sont des textes d'ouvriers, des textes de gens qui travaillent à l'usine, ou pas seulement d'ailleurs, ils peuvent être des textes de ce que j'ai appelé, enfin j'ai repris un mot qui est un petit peu dévalué aujourd'hui, mais j'ai travaillé sur les textes de prolétaires, c'est-à-dire de gens qui ne disposent que de leur force de travail, pour revenir au sens étymologique de prolétaire, et qui donc témoignent de leur expérience, de leur vie. Et c'est ça qui m'a intéressée pour le livre dont vous parlez, donc Usine en texte, écriture au travail. j'ai fait ma thèse sur Louis Aragon. Bon, ma thèse est déjà ancienne, mais j'ai beaucoup travaillé sur les romans d'Aragon. Et ma thèse avait déjà un peu cette perspective, on va dire, sociologique et historique. J'ai travaillé sur un roman d'Aragon qui fait partie de l'ensemble Le Monde Réel, qu'il a commencé en 1934 avec Les Cloches de Bâle, et qu'il a terminé en 1949-1951 avec un grand roman en six fascicules, plus de 1000 pages, qui s'intitule Les Communistes. Donc Les Communistes, c'est un titre un peu particulier dans la période de la guerre froide, on va dire, un peu clivant, comme on dirait aujourd'hui, qui fait que je pense que c'est un livre qui a été assez mal lu, assez mal... Je pense qu'aujourd'hui, il est également assez méconnu, finalement. La preuve en est que quand l'éditeur Gallimard, dans la Pléiade, a publié Les Communistes, il avait peur que s'il faisait un seul volume consacré aux communistes, le volume ne se vende pas. Donc du coup, l'ensemble Les Communistes est réparti sur deux tomes de la Pléiade. Donc comme ça, si on veut lire Aurélien, on lit un bout des communistes. Et si on veut lire La Semaine Sainte, et ben on lit la fin, quoi. Voilà, donc j'ai travaillé sur ces communistes, et en particulier sur le lien à l'histoire, sur la réception du texte, comment le texte avait été lu par des communistes qui étaient les communistes de l'époque, qui ont été amenés à célébrer Aragon, qui était le représentant d'un art de parti que lui-même voulait mettre en place. Et c'est cette relation lecteur qui m'a en particulier intéressée, et la manière dont le lecteur était représenté dans le texte, sous la forme de personnages militants, de personnages qui lisaient l'humanité, qui lisaient certains textes littéraires. Et ça m'a permis aussi d'avoir une approche, on va dire, presque historique et référentielle du texte. Et je pense que voilà, ça aussi, ça montre en fait une approche particulière des textes littéraires, qui est le lien au lecteur réel, et puis la manière dont l'histoire, la politique, la société est représentée dans le texte littéraire. Bon, je ne suis pas une grande militante, même si je suis perçue de cette manière par un certain nombre de mes collègues. Je suis syndiquée, ce qui est plutôt rare dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Je pense que cet engagement, il s'est plutôt fait au niveau professionnel. Puis cette année, je fais partie de la commission de la recherche. Je suis élue au conseil de faculté. Enfin, c'est des engagements de ce type-là qui me semblent à ma portée, on va dire. Mais bon, après, je ne suis pas une militante de choc, participant à toutes les assemblées générales, même si, oui, au niveau professionnel, si, ça a été un peu le cas. Mais je ne suis pas encartée, comme on dit. Je pourrais l'être, mais... J'ai l'impression que je n'aurai pas énormément de temps à consacrer à ça, parce qu'il faut beaucoup de temps pour être militant. Mais en revanche, contrairement à beaucoup de gens, j'ai plutôt de l'admiration pour les militants, pour les syndicalistes en particulier, qui sont tout à fait, je trouve, dévalués dans notre monde d'aujourd'hui, alors que c'est souvent des gens qui sont souvent extrêmement dévoués et qui connaissent des textes de loi, qui se renseignent, qui sont souvent vraiment des spécialistes du domaine du travail et qui font ça en général en plus de leur travail. Les textes auxquels je me suis intéressée sont des textes qui ont été publiés chez des éditeurs, qui n'ont pas été publiés à compte d'auteur. C'est des textes aussi qui ont reçu un certain écho dans la presse nationale, et c'est souvent de cette manière que moi-même je les ai rencontrés. Donc ce sont des textes qui ont déjà subi un certain nombre de sélections, on va dire, avant d'arriver à publication. Ce n'est pas une garantie, mais c'est très difficile en fait de publier un texte. Et d'arriver à cette publication, fait que j'ai travaillé déjà uniquement sur des textes publiés dans des maisons. Alors, les témoignages ouvriers réussissent difficilement à être publiés chez de grands éditeurs. Ils trouvent à être publiés chez des petits éditeurs, souvent des éditeurs militants de gauche ou d'extrême gauche. J'ai travaillé sur plusieurs textes qui ont été publiés par les éditions Agone. C'est un éditeur marseillais, donc un éditeur de région, province comme on disait autrefois, mais qui est un excellent éditeur. Voilà. Alors, mon approche des textes, elle est à la fois littéraire, elle est aussi sociologique. Bon, en tant que littéraire, je vais m'intéresser à la forme des textes. Quelle est la particularité de ces textes ? C'est par exemple très souvent des journaux. Parce que quand on est ouvrier, il est beaucoup plus facile en fait d'écrire un journal que d'écrire un roman ou un texte un peu de longue haleine. Donc ces textes sont souvent assez fragmentaires. Le journal permet d'écrire soit au jour le jour, mais pas forcément, ou une fois par semaine, ou un texte court qui relate ce qu'on a pu vivre. Dans certains cas, je pense par exemple à Marcel Durand. Son vrai nom est Hubert Truxler, il vit dans la région de Montbéliard. Et ce sont ses collègues qui, en 81, l'ont sollicité pour être en quelque sorte le reporter de la grève qu'ils allaient mener dans l'usine. Et donc, c'est un journal de grève. Donc, il était connu comme un peu comme graphomane, comme quelqu'un qui aimait écrire pour amuser ses amis, ou j'imagine qu'au pot de retraite, c'était lui qui faisait le discours, ou des choses comme ça. Donc il est sollicité pour écrire ce texte. Et du coup, ensuite, ce texte-là, qui s'intitulera « Les trois cas », sera publié à l'intérieur d'un ensemble qui va réunir plusieurs textes. Voilà, les trois cas, je ne sais plus combien ça fait de pages, mais peut-être... 60, 70, et ça sera mêlé avec d'autres textes qui sont de type journal. Alors le journal ouvrier, c'est très traditionnel dans l'écriture ouvrière. Dès les années 30, on a publié des journaux ouvriers. Je pense par exemple à Manu au jour le jour. Je sais qu'il s'appelle Malva, c'est le nom qu'il s'était choisi, puisque Malva, ça veut dire que tout va mal. Il s'appelait au départ Bourlard, et là, il a changé de nom. Et donc, Manu au jour le jour, c'est un journal de mineurs pendant une année. C'est un journal qui a été évidemment réécrit, enfin retravaillé par Malva. Donc il y a une forme de tradition. Ces ouvriers d'aujourd'hui qui écrivent éventuellement et qui publient un journal ouvrier s'inscrivent dans une tradition qui est littéraire en fait et qui est assez ancienne. Après, il y a d'autres types d'écriture. Ça sera des écritures sous forme de fragments, de petites nouvelles. On peut donner l'exemple de Jean-Pierre Levaret, qui est ouvrier. Enfin, maintenant, il a la retraite, je crois, depuis une année, dans l'industrie chimique à Rouen. Et il publie Putain d'usine en 2000. Et Putain d'usine, c'est un ensemble de textes relativement courts, qui sont comme des instantanés ou des petites nouvelles, qui s'appellent par exemple 4 heures. 4 heures, c'est 4 heures du matin. Le réveil sonne et il faut aller travailler à l'usine, à Perrault, déclenchement, puisqu'il travaille dans une entreprise qui est classée Céveso, extrêmement dangereuse, qui fabrique des engrais et d'autres produits chimiques. Et les ouvriers, en fait, sont surtout amenés, ils exercent des travaux de surveillance, ils travaillent sur écran, et parfois il y a un déclenchement parce qu'il y a un problème majeur. Donc ils doivent... régler ce problème à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est le genre de petits textes assez courts. Donc Putain d'usine va être un ensemble de textes courts que précisément Jean-Pierre Levaret a écrit. Je trouve ça assez savoureux au moment où il travaillait. Puisque quand on est de surveillance derrière ces écrans, il y a aussi des moments où on peut faire un peu tout autre chose et lui-même écrit à ce moment-là. Voilà, je pense à un autre écrivain ouvrier qui a écrit dans ces conditions, c'est Robert Picamiglio, alors qui est un écrivain, auteur de Chroniques des années d'usine, et d'un autre livre sur l'usine qui s'appelle Les murs l'usine. Et dans la dernière partie de sa carrière, il travaillait dans une usine automobile, il était aussi affecté à un travail de nuit, qui était un travail de surveillance, et par conséquent, il bénéficiait d'un temps un peu volé sur le travail qu'il pouvait consacrer à l'écriture.
Nous accompagnons dans la rue Corinne Grenouillet, auteure d'Usine en texte, écriture au travail paru aux éditions Classique Garnier, invitée dans le cadre des rencontres-débats de l'UMA Café de Nantes.
Le cas de Marcel Durand est assez intéressant. Bon, il écrit énormément encore aujourd'hui. Et ce qui a été publié sous le titre « Grains de sable sous le capot », où il y a cette fameuse grande grève qui est racontée sous le titre « Les 3K ». Il y a un autre titre, c'est « La résistance des An 1 ». Voilà, enfin, c'est un ensemble de textes. Donc ce qu'il écrivait là, ah oui, puis il y a aussi le clan des planches de bord. En fait, il écrivait souvent sur des bouts de papier, des feuilles, qui faisaient circuler en fait à l'intérieur de l'usine, plutôt pour raconter un peu des anecdotes de la vie d'usine. Il était connu pour ça et cet ensemble. Il en a parlé au sociologue Michel Pialou, et c'est Michel Pialou en fait qui lui a dit, mais écoute, il faudrait publier ça. Et je pense que Michel Pialou a eu un rôle assez important en fait dans la mise en ordre de toutes ces anecdotes, de tous ces documents, en particulier de ce qui formait le clan des planches de bord, qui est plutôt un ensemble d'anecdotes, de petites historiettes d'usine, c'est quatre amis qui travaillent ensemble pour installer des planches de bord sur les voitures et qui sont en fait des jeunes ouvriers qui résistent à l'ordre Peugeot. Et puis qui se moque des faillots, des gens qui marchent en fait dans la combine patronale, on va dire. C'est très 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 amusant. Mais donc au départ, c'est un ensemble un peu disparate de feuilles. Il avait même utilisé des feuilles, des prospectus au dos desquels il pouvait écrire, parce qu'en fait il récupérait les prospectus. Voilà, je pensais quelqu'un d'un peu. Il avait une conscience écologique presque avant la mode. Et donc là, effectivement, il y a eu, un gros travail de Michel Pialou. Et je pense qu'il y a des gens comme ça qui ont été en fait des passeurs de cette voie ouvrière. Et pour vraiment la passer, effectivement, il y a souvent exigence d'un travail d'accompagnement, de réécriture, de reformulation. Et pour lire parfois des choses qui sont publiées chez des... même pas des petits éditeurs, c'est presque des éditeurs individuels de la micro-édition. Je me dis tout le temps, mais ah, quel dommage que quelqu'un n'ait pas aidé en fait cette personne à accoucher d'un texte qui soit de qualité supérieure. Effectivement, il y a un travail, et même pour les grands écrivains, on sait très bien qu'il y a un travail avec les éditeurs, les correcteurs, les amis. Il y a toujours des interlocuteurs qui permettent en fait... l'avènement de l'écriture. En fait, écrire, c'est pas écrire, c'est réécrire. C'est écrire une deuxième fois, puis écrire une troisième fois, écrire une quatrième fois. Enfin, le mythe de l'écriture spontanée, elle n'existe pas, quoi.
Vous mettez sur le même plan Putain d'usine de Jean-Pierre Levaret.
Et Louis Aragon.
On va citer un autre auteur que je pensais que vous alliez spontanément citer. Par exemple, Des Houes de François Bon.
Ah oui, oui, oui. Non, effectivement, c'est pas du tout la même chose. C'est déjà des gens qui... C'est des textes qui n'ont pas le même statut. Quand François Bon publie Des Houes, il le publie en 2004, si mes souvenirs sont bons. Bon, il est déjà un auteur qui est installé dans le champ littéraire, qui est relativement connu, qui a commencé à développer un site internet qui va devenir de plus important au fil des années. C'est en quelque sorte un grand auteur contemporain. Il y a beaucoup de critiques littéraires qui travaillent sur son œuvre, des universitaires, en particulier Dominique Viard, qui c'est même un peu son, on va dire, son critique attitré, quoi. Donc le statut du texte Des Houes ou de Putain d'usine n'est absolument pas le même. J'ai envie de dire, il ne joue pas tout à fait dans la même cour. Mais cela dit, moi je pense qu'on doit, en tant que littéraire, être en fait ouvert à tous les types de textes. Parce que finalement, on ne sait pas ce que va garder l'avenir. L'exemple que je donne toujours à mes étudiants, Voltaire écrivait des contes, mais ce qu'il voulait faire, il voulait surtout être tragédien. Pour lui, la tragédie, et pour beaucoup de gens de l'époque, était le grand genre littéraire. Il écrivait ses contes pour divertir ses amis. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on retient de Voltaire, c'est ses contes, et puis on a à peu près oublié ces tragédies que plus personne ne lit. Donc on ne sait absolument pas ce que l'avenir va sélectionner en fait, comme texte, comme grand texte littéraire. Voilà, on peut simplement dire aujourd'hui, bon, François Bon a une place dans le champ littéraire qui est tout à fait conséquente. Il y a un objectif aussi littéraire chez lui. Bon, chez Levaret, je pense qu'il y a peut-être un, peut-être un objectif testimonial, d'être un porte-parole de ce monde ouvrier qui est un peu dévalué, invisibilisé, mal reconnu. Bon, ils n'ont pas tout à fait ni les mêmes moyens, ni la même perspective. Mais cela dit, je pense que j'ai presque envie de dire que tous les textes méritent étude. Voilà.
C'est aussi reconnaître la culture ouvrière.
Les textes ouvriers sont en général considérés comme des documents par les sociologues, par les historiens. Je pense en particulier à l'historien Xavier Vignat qui a étudié les écritures de lutte dans un livre qui est paru récemment. Enfin, il est aussi sensible à l'aspect littéraire. Hein. Je trouve que c'est un des rares historiens qui a aussi cette perspective-là. Quoi. Après, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne. Pour un ouvrier, effectivement, écrire sur ses pratiques, sur ce qu'il connaît à l'usine, c'est aussi parler de ce qu'il connaît. Il va parler en tant que témoin, en tant que témoin oculaire. Et moi, c'est cette dimension testimoniale, elle m'a vraiment intéressée.
Qu'est-ce que vous cherchez au fond ?
Votre question est intéressante. Est-ce qu'en fait, j'avais des idées un peu préconçues, finalement ? Est-ce que je cherchais quelque chose en particulier en travaillant sur ce corpus ? Et à vrai dire, je pense que j'avais pas d'idée. J'étais assez ouverte et je n'avais pas une idée militante. Je n'avais pas l'idée qu'il fallait défendre une culture ouvrière, la mettre en évidence, célébrer les écrivains ouvriers qui n'arrivent pas à être suffisamment lus. J'ai pris un ensemble de textes qui ont été publiés depuis les années 2000. Et puis après, ben, je les ai lus, j'ai regardé ce qui se passait, et en particulier s'il y avait des récurrences au niveau formel, au niveau thématique. Et il y a ce que j'ai appelé les anciens topoi, les motifs. Hein. Topoi, c'est un mot grec un peu... On aime bien le jargon, en fait.
Hein, pluriel de,
voilà,
de topos.
De topos. Par exemple, la fatigue, la fatigue ouvrière, ça, on la trouve chez tous les auteurs ouvriers contemporains. Il y a des pages très belles de Levaré, de Picamiglio. Et c'est déjà des choses qu'on lisait, par exemple, chez Georges Navelle, dans Travaux, ou chez une philosophe comme Simone Veil, cette espèce d'abrutissement qui est produit par le travail d'usine, le travail répétitif, le travail de nuit. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on trouve dans la littérature ouvrière depuis très longtemps et qui revient, quoi, qui est toujours là. Il y a aussi un ancien topoi que j'ai vu, enfin un ancien topos plutôt, développé de façon considérable, c'est le thème de l'accident du travail. Et moi, j'imaginais en fait qu'il n'y avait plus d'accident du travail, mais c'est quelque chose qui a décidé Jean-Pierre Levaré à écrire, puisqu'un jour, il a assisté à un accident tout à fait atroce. C'était en 89 et deux soudeurs sont venus dans son usine réparer une panne d'hydrogène et les tuyaux qui amenaient l'hydrogène ont fait exploser et ces deux hommes ont été instantanément sont morts sous le coup de l'explosion. En fait, il raconte cette chose atroce, qu'il est passé plusieurs fois à côté d'un corps sans reconnaître que c'était un corps. C'était comme une branche calcinée, dit-il. Une branche calcinée, et l'autre aussi, le corps était enchevêtré à la tuyauterie. Et ça a été un véritable traumatisme qui, en fait, l'a conduit à écrire, justement, cet accident du travail. Donc, il y a des éléments déclencheurs qui sont parfois des choses assez atroces qui se passent dans le monde du travail d'aujourd'hui, parce que 89, c'est quand même pas le 19e siècle. Et donc, ces putains d'usines commencent avec cette histoire absolument terrible, et puis se terminent sur l'explosion de l'usine AZF en 1999, où là, il y a quand même eu, si mes souvenirs sont bons, 35 morts, quelque chose comme ça, et puis je ne sais combien de dizaines de blessés. Et c'était il n'y a pas longtemps. Hein, donc... Voilà, donc par exemple, ça c'est un topos ancien, où je pense à Picamiglio. Alors c'est juste en passant, il parle d'un homme qui a perdu ses deux mains sous une presse hydraulique. Et on le voit simplement passer dans le texte, tout seul, sans femme accrochée à son bras. Et je trouve que cette image, elle est assez saisissante de la solitude de cet homme sans main. Voilà, donc ça c'est des anciens topos, et finalement toujours valable aujourd'hui, qu'on trouve dans cette littérature ouvrière. Et ce qu'on trouve, alors qu'il y a plutôt les nouveaux topoi, c'est bah, tout ce qui concerne les accélérations de cadence, la mise en place d'un nouveau management fondé sur la participation, l'esprit d'équipe, les briefings, l'intensification du travail, l'accélération du travail. Donc il y a effectivement des choses nouvelles qui nous montrent à voir sur le monde d'aujourd'hui. Et puis le sentiment chez un certain nombre de ces auteurs que ce monde ouvrier en fait est totalement invisible, inaudible, mal reconnu. Et il y a un texte de Levaret qui s'appelle précisément « Classe fantôme » où il explique que cette classe n'est pas représentée dans les médias. Et là, si vous regardez aujourd'hui la télévision en particulier, on ne voit jamais les ouvriers, on n'a quasiment aucune représentation. On va voir des hommes politiques, des gens du showbiz. Et donc il peut y avoir une envie chez eux aussi de dire, et c'est le cas de Levaret, dont Joanne a parlé beaucoup parce que c'est l'exemple qui me revient, c'est un auteur qui est amené à prendre la parole pour ce monde ouvrier puis à dire qu'il existe. Et là, je suis sûre que si vous faisiez un micro-trottoir et si vous demandiez aux gens quel est le nombre d'ouvriers qui existent en France, on aurait des surprises.
Merci à Corinne Grenouillet, auteure d'Usine en texte, écriture au travail paru aux éditions Classique Garnier, pour sa libre participation à ce reportage enregistré dans le cadre des rencontres-débats de l'UMA Café de Nantes.